Chers auditeurs, bienvenue à Radio Grand Ciel. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur l'abbé Jacques Potier, que sans doute vous avez déjà eu l'occasion à plusieurs reprises dans d'autres émissions, que vous avez eu l'occasion d'écouter. Il est aujourd'hui avec nous dans le studio en tant que prêtre du diocèse, mais aussi en tant qu'exorciste. C'est une fonction spéciale qui se préoccupe des personnes qui pourraient rencontrer des problèmes liés à ce qu'il est convenu d'appeler le spiritisme. Alors, j'ai regardé sur Internet, on trouve tout sur Internet. Le spiritisme est une pratique qui consiste à communiquer avec les êtres, nous dit une femme qui pratique différentes méthodes de spiritisme. Et elle poursuit en disant, on dira le plus souvent qu'il consiste à communiquer avec les personnes décédées. Donc, nous allons interroger Monsieur l'abbé pour lui demander, est-ce qu'on peut interroger les personnes décédées? Elle parle aussi de la table tournante, de l'écriture automatique, de l'écriture intuitive, de l'incorporation, des choses que nous ne connaissons évidemment pas en détail. Mais avant de laisser la parole à Monsieur l'abbé, j'ai regardé dans le dictionnaire catholicisme ce que l'Église a dit au sujet de ces pratiques, que je résumerai pour faire court un peu à la magie. Parce qu'à la cathédrale de Chartres, dont j'ai le plaisir d'être l'une des guides, on a beaucoup de représentations du diable, et toujours, en général, quand il y a un magicien. Donc, pour le Moyen-Âge, la magie, elle est étroitement liée au diable.
Bonjour, Madame Lagier, merci de nous permettre une conversation sur des thèmes assez difficiles. Vous m'avez présenté comme exorciste, mais je ne m'y attendais pas. Ce n'est pas ce titre-là, c'est aussi au titre de prêtre et de tout chrétien qui doit être assez averti sur ces réalités assez obscures. Vous avez commencé par le spiritisme, d'ailleurs le mot l'indique, l'esprit, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors il faut être assez net là-dessus. Je pense que l'Église, dans le catéchisme de l'Église catholique d'ailleurs, l'a rappelé, il est interdit de fait d'avoir ce pouvoir, d'essayer d'avoir un pouvoir qui nous permettrait de rentrer en communication directe avec les personnes décédées. Parce que autant nous croyons à la communion des saints, autant nous pensons qu'il y a une certaine communion, peut-être pas communication. Le terme semble signifier que directement les personnes décédées par des moyens. On voit que des jeunes, par exemple, font tourner la table ou arrivent à trouver des lettres qui signifieraient un message. Tout cela, c'est de la manipulation. D'ailleurs, ça peut marcher. C'est-à-dire que, de fait, il y a des réalités objectivement reconnaissant qu'il y a des messages qui peuvent passer. Mais quelle est l'origine de ces messages? Eh bien, on peut certainement, par le mal-être qui en découle chez ces gens qui pratiquent ces réalités, en déduire que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le spiritisme, au sens le plus noble, devrait être une communication ou une communion avec l'esprit de Dieu, qui lui-même peut nous mettre, bien sûr, en communion avec des personnes décédées, mais dans le Christ, dans l'Esprit Saint.
En effet, dans les actes, Paul, quand il est encore Saül, il dénonce l'imposture d'un magicien et l'image qui veut se poser à la conversion d'un proconsul. Donc, dans la Bible, on trouve des exemples. Et le roi Saül qui
veut interroger Samuel, qui d'ailleurs se manifeste, mais pour montrer que, justement, ce n'est pas de Dieu. Ça, tu m'as réveillé, et qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas une orientation bonne pour lui, ça se termine mal. Donc il ne faut pas, parce que de fait, on a l'air d'avoir la main sur des réalités qui nous dépassent, et ça va contre l'esprit de foi. Ça va donc dans un aspect de superstition, de réalité, où justement, dès les actes des apôtres, et Paul, vous faisiez allusion à Paul, il y avait une pitié là qui avait l'esprit de divination, et il l'a reprise très nettement. Donc il y a plusieurs passages qui signifient qu'il faut arrêter cela, parce que c'est l'œuvre du démon certainement qui est derrière tout cela.
Tout ce qui nous est permis aux chrétiens, c'est de prier pour les morts.
Alors, on s'approche de la Toussaint et du 2 novembre. On sait que par Cluny et Odilon notamment, ce moine a divulgué cette dévotion aux âmes du purgatoire. Et là, on semble signifier que de fait, on peut avoir une action sur ces âmes pour hâter leur délivrance. Alors, est-ce qu'elles peuvent aussi agir ou avoir une certaine influence sur nous? Il semble que des théologiens, y compris des saints comme Alphonse de Liguori ou autres, signifient que les âmes du purgatoire peuvent avoir une influence sur notre vie, mais dans l'ordre de la communion des saints, d'inspiration, mais de manifestation peut-être extraordinaire. On voit, il y a des mystiques qui ont eu la visite des âmes du purgatoire. Bon, ça, c'est d'accord. Mais d'une façon habituelle, c'est dans la prière que nous pouvons justement, non pas sentir, mais réaliser qu'il y a une influence et des effets spirituels, et des effets même d'ordre temporel. Pourquoi pas? Je me souviens une sœur qui me disait qu'elle avait eu des problèmes avec des gens qui semblaient subtiliser des affaires, et qu'elle avait prié les âmes de purgatoire pour être protégée, et puis ça a marché. Voilà, donc oui, ça c'est possible, évidemment. Heureusement qu'il y a un lien entre sur Terre, entre les âmes et les saints, surtout. D'ailleurs, Thérèse de Lisieux a bien dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la Terre ». Faire, ça veut dire qu'il y a une réalité qui a des effets.
Cette croyance que l'on peut prier pour les morts, elle est basée sur un passage de l'Ancien Testament avec les Maccabées aussi.
Alors, oui.
Quand les guerriers sont morts.
Oui, alors qu'on a trouvé des amulettes, et alors justement, c'était un signe de superstition que justement, ça a été repris. Et donc, pour justement réparer cela, eh bien, on a offert un sacrifice à Jérusalem pour les défunts. Donc là, ça a été la première mention d'une prière même d'expiation, d'une prière concrète, un sacrifice offert pour les âmes. Et ça, c'est quelque chose qui a été reconnu comme déjà une annonce de l'importance de la prière pour les défunts, déjà dans l'Ancien Testament. C'est un des rares passages qui signifie qu'il y a une action possible pour hâter la délivrance des âmes.
Vous pouvez peut-être rappeler la nécessité ou la possibilité que nous avons de commander des messes ou de faire dire des messes pour les morts.
Alors, ça a été une tradition très très ancienne. Moi, j'aime beaucoup aller à Montlignon. On sait que Monseigneur Buguet a lancé au XIXe siècle tout un mouvement qui a eu une ampleur internationale puisqu'il est allé jusqu'aux États-Unis pour rassembler toute une assemblée de prières, tout un mouvement de prières pour hâter la délivrance des âmes du purgatoire. Et au départ, ça s'appelait l'œuvre d'expiation pour les âmes du purgatoire, c'est-à-dire qu'on basait surtout cette intuition sur le fait que le Christ sur la croix a expié. Et donc la messe reprend ce sacrifice pour hâter la délivrance des âmes du purgatoire, pour le soulagement des âmes du purgatoire. C'était à ce moment-là une expression très courante. Il faut aller à Montlignon justement pour découvrir toute cette histoire. Et lui-même, Monseigneur Buguet, elle n'a pas été évêque, c'était un prélat, il a eu cette expérience de l'importance de supplier pour la délivrance, comme il disait, les âmes des défunts les plus délaissées. Il offrait la messe surtout du lundi pour les âmes des défunts les plus délaissées du purgatoire.
Est-ce que dans votre ministère, vous rencontrez des jeunes gens qui auraient pu faire tourner des tables, par exemple? Parce que on sait qu'au XIXe siècle, dans la bonne société, on pratiquait ce jeu que l'on croyait.
Oui, donc là, on sait que c'est, hélas, beaucoup d'adolescents essayent de pratiquer ça, et ça, c'est pas bon, parce qu'il y a des effets excessivement négatifs. On voit tout prêtre, surtout à l'accueil à la cathédrale, des jeunes qui ont fait des expériences plus ou moins nettes là-dessus, et il y a un mal-être. C'est ça qui détermine un peu qui a un effet négatif. Le malade me sent pas bien, etc. Tout rate. Je n'ai plus d'idéal. Bah, c'est ça peut être consécutif.
Assez pratique.
Bah, c'est-à-dire que il y a pas cette dimension de foi, d'un idéal normal, quoi. Il y a eu des perturbations. Le magnétisme. J'ai eu plus à faire avec le magnétisme. Je me souviens avoir vu une dame, donc elle n'est pas d'ici, puis je crois que là on peut partager cela. Et elle avait comme un problème un peu dans les reins. Elle avait été voir un magnétiseur qui a mis la main là dans le bas des reins. Eh bien, curieusement, elle m'a dit, mais c'est curieux, quand il m'a touché après, quelques temps après, j'ai eu comme une brûlure et j'arrive pas à m'en débarrasser, quoi. Et donc, il a fallu plusieurs séances pour que, justement, on en déduise qu'il y a eu là, et cet homme a été le canal d'une réalité négative, en fait. Alors, ça peut marcher, il y a peut-être des réussites pour certaines personnes, mais... J'ai entendu quelqu'un qui me disait qu'il soufflait un petit peu des brûlures, mais un jour, il a eu la révélation que, justement, lorsqu'il soufflait cela, bah, ça réussissait, mais il a entendu une voix qui lui aurait dit, y a une autre personne, quand tu enlèves, il y a une autre personne qui aura une maladie. Donc, ça avait marché pendant peut-être des années, mais il a eu la révélation, parce qu'il était chrétien, que, évidemment, à longue échéance, c'est négatif. De même, j'ai eu le cas on m'a dit qu'un moine, était en vacances, il avait des problèmes d'estomac assez graves, et que, justement, il a profité des vacances pour aller voir un magnétiseur un guérisseur, enfin, je ne sais pas. C'était un petit peu en dehors de l'obéissance, mais toujours est-il que ça a été efficace. Ah ouais, ah, il était content, il avait tellement mal à l'estomac que ça avait duré, et puis là, il avait trouvé quelqu'un qui l'avait délivré. Seulement, un an après, il n'était plus dans le monastère, c'est-à-dire qu'il a eu des troubles d'un autre ordre. Vous voyez, ça a atteint peut-être sa vocation, enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une cause à effet ? Il y a quand même beaucoup de cas comme ça, où on voit une efficacité, mais à longue échéance... Il y a un mal-être, il y a des conséquences psychiques, spirituelles, graves. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut alerter les gens, pas à s'arrêter sur une efficacité. Ah ben lui, il a été guéri. Oui, mais quelle est la conséquence spirituelle, morale de cette réalité ?
On peut toujours effectivement se demander pourquoi un magnétiseur qui guérit quelqu'un demande à la personne de revenir régulièrement. Mmh. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un pouvoir autre que le seul pouvoir guérisseur qui pourrait être exercé sur le patient.
J'ai eu au téléphone seulement il y a deux jours, hein, donc c'est récent. Et je vais voir la personne, mais elle a eu le temps de me dire, mais j'ai été chez un guérisseur, il y a du monde, il prend 50 euros à chaque séance, et il faut revenir plusieurs fois. C'était d'un luxe là-dedans, mais de toute façon, nous, ça n'a pas été une réussite, mais il a écrit des livres, et ça a marché certainement. Et ensuite, les gens se le disent, et puis il y a un mouvement, et si vous voulez, lui-même, le guérisseur, est pris là-dedans, et surtout s'il a un physique qui correspond à la chose, s'il a une façon d'être qui plaît, eh bien, il y a une réussite, et les gens se font avoir.
C'est toujours inquiétant, avec un don qui pourrait être gratuit et donné par Dieu, de s'enrichir.
Oui. C'est sûr. Non, mais c'est pas net. Alors, c'est d'autant plus difficile à discerner, c'est que quand vous allez chez ces gens-là, vous avez la photo de Padre Pio, il y a une image de la Vierge, et puis ils disent, vous savez, moi je prie, hein, je suis croyant. Donc, ça met les gens dans une espèce de crédulité et aussi dans une dépendance. Moi, j'ai vu plusieurs fois une personne notamment qui m'a dit qu'elle s'était trouvée peu à peu mise sous la dépendance presque psycho-affective de ce magnétiseur, comme elle, c'était une jeune dame. Elle s'est dit, mais là, je me fais piéger et puis je suis pas bien, il faut couper, comme on dit, couper les liens. Et je crois que bah, ça a marché. Enfin, de mon côté, j'étais content qu'au bout de trois séances, j'aime pas de rencontres, de prières, mais dans le Christ, que tout prêtre peut faire d'ailleurs, hein, c'est pas un exorcisme majeur, eh bien, ça m'a fait plaisir. Cette personne qui avait, donc je veux pas révéler, une qualité professionnelle exceptionnelle, hein, qui était gênée dans son métier, eh bien, qui m'a dit au téléphone, maintenant ça va, je me sens mieux. Voilà. Donc l'Église peut aider, mais tout chrétien devrait s'aider là-dessus pour délivrer les jeunes et moins jeunes des influences négatives du magnétisme, du spiritisme, qui est un véritable filet où beaucoup de gens sont complètement pris et séduits par ces réalités négatives.
Avec Monsieur l'abbé Potier, dans notre émission qui sera consacrée aujourd'hui au spiritisme, nous avons parlé un peu des guérisseurs, des magnétiseurs, qui ne connaît pas, qui n'a pas peut-être déjà consulté un magnétiseur, mais effectivement, il ne faut pas que cela aille trop loin. On peut se demander pourquoi certaines personnes qui ne vont pas à l'église, qui ne prient pas vraiment, acquièrent des dons. Alors, personnellement, j'ai lu un livre écrit par un ancien franc-maçon, Serge Abad Gallardo, qui le dit, mais plus je montais dans la hiérarchie de la franc-maçonnerie, plus je développais des dons. Je pouvais sentir par mes mains, sans toucher les personnes, des nœuds, je pouvais guérir. Et il s'en est inquiété et il a fini par se convertir au catholicisme. Il est allé voir un prêtre et il a subi donc des prières de délivrance, monsieur l'abbé. Vous en avez peut-être aussi
oui, alors, madame, expérience. On reprend un peu ce qu'on a déjà dit la dernière fois, mais on va un petit peu approfondir cela. C'est vrai que vous faites allusion à des faits que moi-même j'ai expérimentés, je me souviens, avoir parlé avec un monsieur qui était à une retraite avec moi d'ailleurs, et à la fin de la retraite, il m'a confié qu'il avait certains pouvoirs, c'est-à-dire qu'il voyait la lumière autour des gens, il devinait quelquefois ce qui pouvait leur arriver. Et il a pratiqué cela pendant des années. Il sentait qu'il avait un pouvoir assez extraordinaire, même de guérir. Mais au bout d'un certain temps, il s'était coupé de la religion. Il a reconnu que lui-même, il avait des choses vraiment qu'il gênait, des réalités de mal-être qui faisaient que vraiment, il cherchait à s'en délivrer. C'est comme ça qu'il a fait cette retraite, mais juste avant cette retraite. Il avait rencontré un prêtre, il avait prié et il a senti que si il adhérait à la foi totalement par la confession et par l'Eucharistie, s'étant laissé attirer par cela, eh bien, il a eu la joie de la foi, il a eu une délivrance et il a perdu, mais il a dit, j'ai perdu tous mes pouvoirs. Et c'est là que j'ai perçu que j'étais téléguidé par des entités, comme pour reprendre le langage que ces gens l'apprennent, des entités négatives qui le galvanisaient parce qu'il y avait un certain résultat, mais qui le coupaient d'une source vitale de foi et d'amour et qui le liaient quand même intérieurement. À la fois, il y avait une réussite, à la fois, il y avait un certain épanouissement purement extérieur avec les gens qui pouvaient l'aduler. Mais intérieurement, une espèce dans son âme, une corrosion de vérité, une corrosion de l'amour qui le paralysait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, j'adhère à la foi, j'adhère au Christ, je me désolidarise de tout un monde, je trouve une joie spirituelle, mais je perds ce pouvoir. Mais heureuse perte! Parce que finalement, c'est des liens qu'il enlève et une joie spirituelle et une liberté qu'il acquiert. Mais c'est dans l'obscurité de la foi. Il vit de la foi, mais la joie de vivre dans l'Église, d'avoir les sacrements, d'avoir tout pour l'épanouissement vrai et non pas un faux épanouissement de pouvoir qui est vraiment nauséabond finalement à la fin.
J'étais toute étonnée de lire dans un dictionnaire catholique sur le yoga que c'est une pratique comme une autre de méditer, de faire le vide. Qu'est-ce qu'il faut penser du yoga qui nous vient des contrées très lointaines? Pourquoi est-ce qu'on conseille aujourd'hui, dans les écoles même catholiques, de faire le yoga plutôt que de faire la prière, le rosaire, qui est comme un tantra aussi? On répète plusieurs fois la même prière. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce but de faire le vide dans sa tête?
Alors, pour le yoga, je ferai quand même peut-être une distinction. Il y a un aspect de yoga qui est de gymnastique, de pause, de contrôle du souffle, d'un certain apprentissage de la concentration qui peut être bénéfique. Il y a un bénédictin qui a écrit « Le yoga chrétien est possible ». Alors, il est à ce moment-là possible de penser qu'un certain cheminement peut être valable. Moi-même, j'avais lu une partie de ce livre et je trouvais que c'était bien parce que il nous apprenait à respirer, à non pas faire le vide, mais pour le bénédictin, c'était de ramasser un peu son esprit, son intelligence sur Jésus. Alors c'était, si vous voulez, une prise de conscience que les gens ne savent pas respirer, ils ne savent pas marcher. La méthode Vitose a repris cela. Alors, si c'est le yoga à ce niveau-là, très bien. Mais on sait très bien qu'il y a des degrés, et lorsqu'on est en face de certains maîtres, eh bien c'est tout à fait autre chose. C'est qu'à partir de cela, c'est ce sens de, comme vous disiez, de faire le vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'à ce moment-là, on peut être, si vous voulez, sous les influences, y compris du maître, qui va vous mettre des mantras, qui va vous lier avec des paroles, si vous voulez, qui vont vous mettre dans des dépendances, et surtout, qui vont vous couper de la foi. Parce que c'est ça qui est grave. C'est que, évidemment, comme dans le New Age, on a un certain bien-être, apparemment, il semble que cette méditation dans un monde de bruit, bon, oui, ça fait du bien. Mais c'est rempli par quoi? C'est rempli par aussi, souvent, un regard sur soi. On est enfermé sur soi-même, soi-disant pour trouver un équilibre, mais c'est pas un véritable équilibre, et ça nous enferme sur nous-mêmes, et ça nous empêche de découvrir la beauté de la foi, de la parole de Dieu qui nous sort de nous-mêmes. Il y a quand même une différence complète entre l'introversion qui est un retour sur soi qui, dans un premier temps, peut être pas mal, mais si c'est pour se trouver que soi, c'est complètement négatif. C'est complètement différent avec le chemin, par exemple, de Thérèse d'Avila, qui va, dans un premier temps, bien sûr, nous dire « entrez en vous-même ». Mais ce n'est pas pour se trouver soi, c'est pour trouver la présence de Dieu, la présence de la grâce, une réalité, j'allais dire, pour employer un grand mot, extrinsèque à nous-mêmes. Et ce n'est pas nous-mêmes qui sommes le centre, au contraire, on va à l'intérieur pour se décentrer, pour entrer dans la vie du Christ, dans le cœur du Christ, dans l'âme du Christ, dans la prière du Christ. Alors, je dirais, le yoga peut être dangereux dans un deuxième degré de cheminement qui nous axe sur nous-mêmes et qui nous empêche de trouver une véritable sagesse, qui est la sagesse chrétienne. Alors qu'il y ait, chez les hindous, une certaine sagesse, ça peut se faire. Moi, je crois que la grâce de Dieu passe, bien sûr, en dehors des structures visibles de l'Église, en dehors des sacrements. Et on peut trouver, heureusement, chez les hindous, chez des sages, une recherche assez noble, hein, c'est sûr. Donc, qu'on a un certain cheminement vers une certaine sagesse. Mais c'est ambigu, c'est très ambigu, et à un certain degré, eh bien, je dirais que ça peut couper de la véritable sagesse chrétienne, qui pour moi est le véritable chemin de délivrance. C'est pour ça, la gymnastique du yoga, oui, il y a des chrétiens qui peuvent très bien aller dans certaines séances de relaxation et de certaines pauses qui permettent un assouplissement, et, je dirais un dégraissage un petit peu de son être, c'est pas mal. Mais quand c'est ensuite sur toute une soi-disant sagesse de découverte. Là, je suis assez sceptique et j'encourage absolument pas à entrer dans cette voie.
Et sans doute, tant qu'il n'y a pas une dépendance du maître qui enseigne le yoga, par exemple, qui vous rend dépendant. Au portail sud, on a cette... Ah oui, peut-être pour reprendre d'abord la notion de sagesse. Pour les chrétiens, la sagesse, c'est Jésus. Mmh. Vous avez au portail royal, la porte de droite par laquelle on a coutume d'entrer, la représentation de la Vierge Marie qui est... tient Jésus sur ses genoux. C'est Jésus, la sagesse à laquelle nous visons tous, et les arts libéraux qui sont représentés autour ne servent qu'à connaître mieux Jésus. Alors, pour revenir au yoga, quand même, au portail sud de la cathédrale de Chartres, on voit les saints, les martyrs, les confesseurs, mais surtout, sous les pieds des apôtres, on a des persécuteurs, des rois, des... grands prêtres, qui sont dans des positions que je désigne quand je fais des visites guidées, que je désigne comme des positions de yoga, et je dis aux personnes, si vous arrivez à mettre votre jambe droite derrière votre tête, comme font certains yogis, il me semble que vous avez un petit problème, parce que cette élasticité du corps, d'où vient-elle? C'est une question que je me pose. Donc, respiration, oui, mais ne peut-on pas aussi se calmer en récitant le chapelet?
Oui, alors... Donc vous faites allusion à beaucoup de choses. Je vais reprendre ce que vous avez dit en premier lieu. C'est tout à fait beau de rappeler qu'à Chartres, on a Marie, trône de la sagesse. On peut dire que ça peut être une vraiment sedes sapientiae. Ça peut être vraiment un de ces titres qu'il faut souligner avec les arts libéraux. C'est-à-dire que c'est vrai que tout l'humanisme déjà du Moyen-Âge est intégré par le Christ, et donc toute cette découverte des arts et des réalités, y compris la musique, peuvent servir à nous élever. Mais après, comme vous dites, quand ça va trop loin, on peut se demander quelle est l'origine de cette gymnastique hors du commun et des yogis qui ne perçoivent plus du tout les épingles, enfin les fakirs et toutes ces choses qui sont quand même d'un ordre... pas surnaturel, mais pas, tout au moins pas naturel. Et donc là, on est en dehors des choses de la vie normale, parce que bon, le Seigneur ne demande pas à des excentricités quand même assez extraordinaires de ces yogis qui font des choses qui sont hors du commun pour le spectacle. Bon, qu'est-ce que ça apporte? C'est pas... Il faut travailler, il faut rentrer dans les arts, il faut avoir une véritable spiritualité, il ne faut pas faire de l'extraordinaire, quoi.
Il paraîtrait que le temps a passé très vite, nous sommes presque au bout de notre émission. Pour ne pas conclure, parce que je pense que si vous êtes d'accord, je voudrais bien vous solliciter pour une autre émission sur ces thèmes. Permettez-moi de juste rappeler que de Saint-Justin à Saint-Augustin, chers auditeurs, la magie apparaît comme le lieu de l'esprit qui trompe et se trompe. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, de nous avoir parlé de tout ce qu'il ne faut peut-être pas pratiquer.
Et je n'ai pas eu le temps de dire ce que vous avez souligné, remplacer le mantra par le chapelet, parce que c'est vrai qu'il y a une méditation chez nous de sagesse, qui est aussi dans l'ordre répétitif un chemin de grâce pour nous élever à la véritable contemplation. Merci de cette conversation un peu à bâton rompu, mais je pense toujours bénéfique.
Merci beaucoup, monsieur.
Au revoir, madame Lagie.
Au revoir, chers auditeurs. Merci.